Polutech Online, le rendez-vous incontournable des acteurs de l'environnement et de l'énergie. Vivez l'expérience Polutech de façon 100% digitale.
Bonjour, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur cette table ronde consacrée aux déchets du bâtiment. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau sur ce plateau de Polutech Online. Pendant les 45 prochaines minutes, ce sont donc, je le disais, les déchets du bâtiment qui vont nous intéresser suite à la promulgation de la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire qui a donc été promulguée donc en février 2020. L'une des mesures emblématiques, vous le savez, de cette loi en ce qui concerne le bâtiment, c'est la mise en place d'une REP, la fameuse responsabilité élargie des producteurs. Et pour en discuter autour de moi, donc j'ai le plaisir d'accueillir une table ronde très féminine. Il faut le remarquer, sur une table ronde déchets, c'est assez rare. Donc Stéphanie Coulon, vous êtes ingénieure environnement au sein de la Fédération française du bâtiment, la FFB.
Bonjour.
Bonjour. Rimem Thiba, vous êtes responsable projet bâtiment et coordinatrice de la plateforme Démoclès, également écosystème. Oui. Françoise Weber, vous êtes directrice des schémas des REP, donc des responsabilités élargies des producteurs, au sein de la branche recyclage et valorisation des déchets chez Veolia. Et enfin, Bonjour. Le seul homme donc, de cette table ronde, mis à part moi, donc, qui suis animateur, Olivier Ponty, vous êtes président de Fédérec, la branche bâtiment, et vous êtes également directeur général de la société Corudo.
Enchanté.
Donc merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Donc je le disais, l'une des mesures phares de la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, c'est donc, s'agissant du bâtiment, c'est donc la REP. Est-ce que Stéphanie Coulon, vous pouvez nous faire un petit aperçu des objectifs de cette REP, d'une part, de manière à ce que tous ceux qui nous écoutent soient sur des bases stables pour aborder ce débat, et puis également nous faire part des enjeux que représente la mise en place de cette REP?
Oui, bien sûr. Alors l'objectif d'une filière REP au départ à mettre en place, c'est le fait de responsabiliser les producteurs, donc les metteurs en marché, pour organiser la collecte, le traitement des déchets, et en l'occurrence des déchets de chantier. Et dans un objectif d'augmenter la performance de valorisation, de recyclage de ces déchets. C'est bien ça l'objectif premier. C'est ce qu'on appelle aussi le principe du pollueur-payeur. La filière REP bâtiment, elle a quand même une particularité assez inédite. D'abord, c'est une initiative française, hein, il n'y en a pas dans d'autres pays du monde. Et puis, elle concerne un volume assez inédit de déchets, puisqu'on est sur 46 millions de tonnes de déchets produits en France par an. 46 millions de tonnes, c'est peut-être à mettre en perspective avec d'autres filières REP qui existent et qui concernent notamment notre secteur. Les déchets électriques et électroniques, on est sur moins d'1 million de tonnes. Les déchets d'éléments d'ameublement, on est autour de 3 millions de tonnes collectées par an. Donc 46 millions de tonnes, vous voyez, c'est un défi.
On a 12 fois plus.
Voilà, un sacré enjeu. D'autre part, donc aujourd'hui où on en est sur les déchets du bâtiment, on a un taux de valorisation de l'ordre de 67%. 67%, ce qui peut sembler intéressant comme objectif, d'autant plus que l'Europe avait fixé un objectif de 70% de valorisation d'ici 2020. Donc l'objectif est quasiment atteint. Néanmoins, quand on regarde ce chiffre d'un peu plus près, il se trouve que les déchets du bâtiment, c'est à peu près 3/4 de déchets inertes. Donc déchets inertes, ce sont les déchets minéraux, donc le béton, les gravats, les tuiles, les briques, qui sont des déchets finalement assez faciles, si je puis dire, à valoriser, notamment en sous-couche routière, c'est pratiqué déjà depuis de nombreuses années, ou en remblai de carrière.
Juste une petite précision, oui. Quand vous parlez des déchets du bâtiment, soyons clairs, est-ce qu'il s'agit des déchets de la construction, de la démolition? Ou c'est le tout?
C'est les déchets du bâtiment. Attention à ne pas confondre avec les déchets du BTP, bâtiment travaux publics. Donc tout ce qui relève des déchets issus de la construction des routes, des ponts, etc. n'est pas compris dans cette REP. C'est uniquement des bâtiments. Par contre, tous les déchets du bâtiment, que ce soit construction neuve, rénovation, ou déconstruction, démolition, tous ces déchets sont bien pris en compte. Pour continuer, donc effectivement, 3/4 de ces déchets sont des déchets minéraux inertes. 1/4 des déchets, et donc ces déchets-là inertes, sont bien aujourd'hui valorisés. On est à plus de 70% de valorisation. Donc finalement, c'est un bon taux. Et c'est ce qui finalement tire ce 67% dont je parlais tout à l'heure vers le haut. Pour le quart restant, on est sur des déchets qu'on appelle non dangereux, non inertes. Et là, vous avez les fenêtres, le plâtre, les isolants, les revêtements de sol, les plastiques, le bois, etc.
Donc, c'est sur ces déchets-là que se situe le plus gros enjeu, finalement.
C'est ça. Et finalement, le taux de valorisation est très inégal. Ça va de quelques pourcents à une vingtaine de pourcents au maximum. Donc, il y a une vraie marge de manœuvre.
Alors, la mise en place de cette REP, qu'est-ce que ça représente comme enjeu pour les entreprises que vous représentez? Déjà, vous pouvez peut-être redire effectivement les entreprises que représente la FFB. Rapidement.
La Fédération française du bâtiment regroupe 50 000 entreprises de travaux, donc entreprises artisanales, 35 000 entreprises artisanales et ensuite les entreprises de toute taille jusqu'au major.
D'accord.
L'enjeu pour nos entreprises, dans le cadre de cette REP, c'est de bénéficier à la fois d'une reprise gratuite des déchets, puisque c'est bien ça le principe de la REP. Le traitement et la collecte des déchets va être financé par les producteurs, donc les metteurs en marché, les fabricants. Et donc, du coup, les entreprises vont pouvoir bénéficier de cette reprise gratuite. Néanmoins, maintenant, une fois qu'on a dit ça, rien n'est gratuit dans la vie. Et donc, ce financement va être répercuté sur le prix des matériaux et des produits de construction. Donc, le véritable enjeu va être de se dire, il va falloir trouver un juste équilibre entre une augmentation raisonnable de ce prix des produits et matériaux de construction pour assurer un surcoût acceptable par la filière. Et en même temps, un service de qualité, de proximité, pour les artisans et entreprises du bâtiment, notamment, il va falloir que se mettent en place des services de reprise gratuite à proximité des chantiers, sachant qu'un artisan ne fera pas plus de 15 à 20 kilomètres pour aller déposer ses déchets. Donc c'est vraiment un enjeu fort. Et on peut se dire, combien ça va coûter tout ça? Aujourd'hui, on est en attente des résultats de l'étude de l'ADEME qui va nous dire justement combien ça va coûter.
Donc il sera publié très prochainement, je crois le 17 décembre.
Tout à fait. D'ici fin décembre, on aura des éléments économiques pour mieux s'y retrouver. Mais il faut avoir en tête que la REP devra financer non seulement la reprise gratuite des déchets du bâtiment, normalement de l'ensemble des déchets du bâtiment, les 46 millions de tonnes que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi donc le renforcement du maillage territorial en points de collecte, donc la création éventuelle de nouveaux points de collecte ou l'adaptation de ceux qui existent déjà, le financement du nettoyage des dépôts sauvages liés aux déchets du bâtiment. Donc ça, pour le coup, c'est une vraie incertitude. On n'a pas de chiffres aujourd'hui sur le nombre de dépôts sauvages, sur combien ça va coûter. On n'a que des estimations qualitatives, donc comment ça va être pris en compte et surtout à quel niveau. Et enfin, le développement des filières de recyclage, donc éventuellement tout ce qui est, s'il y a de la R&D à faire sur des techniques qui n'existent pas encore, tout ce qui est également communication, sensibilisation des acteurs. Donc ça fait des grosses sommes. C'est pour ça qu'on se pose la question comment tout cela va être financé.
Quand vous parliez au départ de la répercussion sur le coût, enfin le coût effectivement de cette mise en place, vous pensez à la répercussion sur le coût de la construction ?
Tout à fait. En fait, ça va être répercuté sur le prix des produits et des matériaux de construction. Et donc, finalement, ça va être répercuté sur le client final qui va acheter son nouveau logement ou qui va payer ses travaux.
Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le foncier qui fait quand même la différence par rapport au coût de la construction ? Enfin, je pose la question parce que le coût de la maison, finalement, qui est sur le foncier, alors tout n'est pas équivalent en France, notamment, mais c'est vrai que dans Paris, par exemple, où on se situe à l'heure actuelle, c'est le foncier qui est le plus gros facteur de croissance du coût.
Alors après, Paris, c'est quand même un cas bien particulier. Et donc, ça pourra pas être... c'est vraiment un focus. Et en plus, à Paris, c'est surtout des rénovations. Il y a moins de construction neuve. Mais il faut penser à l'ensemble des chantiers sur l'ensemble du territoire français où, du coup, finalement, c'est... Là, on parle d'une augmentation des prix de matériaux de construction liés à la REP. Mais il y a bien d'autres réglementations qui s'accumulent, bien d'autres normes qui font que les coûts renchérissent. Donc ça fait qu'on augmente les coûts, l'incendie, l'accessibilité. Vous avez certainement entendu parler dans les médias de la future réglementation environnementale 2020 qui va imposer de nouvelles normes sur le carbone et sur la performance énergétique, donc qui va encore renchérir les coûts.
Plus.
Donc c'est pour ça qu'on sera vigilant à cela.
Alors, Rimem Thiba, je le disais tout à l'heure, vous êtes de la plateforme Démoclès. Vous pourrez peut-être d'ailleurs nous repréciser effectivement en quoi consiste la plateforme, au-delà du fait que l'objectif c'est de catalyser la prise en compte de l'économie circulaire dans le bâtiment. Quelles sont les solutions que vous préconisez justement pour que la mise en place de cette REP soit facilitée ?
Alors, rapidement ce qu'est Démoclès. Donc Démoclès, c'est une plateforme collaborative d'acteurs qui a été lancée en 2014 par Récilium, aujourd'hui Écosystème, dans le but de...
Donc un éco-organisme.
Un éco-organisme, dans le but de aller vers plus d'économie circulaire pour les déchets du second œuvre. Donc le un quart dont parlait Stéphanie, qui sont donc l'habillage du bâtiment, comme le disait Stéphanie. Donc la partie inerte aujourd'hui se valorise très bien. C'est vraiment sur la partie déchets non dangereux, non inertes, qu'il y a des progrès à espérer dans le futur. Et donc cette plateforme collaborative, effectivement, a été mise en place à l'origine par un éco-organisme, cofinancé par l'ADEME, et qui associe donc toute la chaîne des acteurs. Stéphanie, tout à l'heure, disait responsabilité, responsabiliser. Effectivement, la spécificité du bâtiment, c'est que la destinée du déchet, qui est issue d'une opération de démolition et de réhabilitation, sa destinée est liée à des prises de décision d'une chaîne d'acteurs très complexe. Ce n'est pas un simple consommateur qui, chez lui, va prendre conscience qu'il y a un point de collecte où il va pouvoir déposer tel type de déchets. Là, il y a un maître d'ouvrage, il y a un maître d'œuvre, il y a une entreprise de travaux avec toutes les sous-traitants, il y a des gestionnaires de déchets, il y a des industriels. Et toute cette chaîne des acteurs est responsable aussi du déchet, et avant que le déchet soit remis à la REP, à la future REP, au futur éco-organisme, il faut que toute cette chaîne des acteurs joue aussi son rôle. Et donc, pour garder ces acteurs dans la chaîne des responsabilités, nous, dans le cadre de la plateforme Démoclès, on a mené des réflexions sur le modèle de traçabilité. Effectivement, la traçabilité aujourd'hui, c'est un peu le maillon faible. Pourtant, c'est quelque chose qui peut être créateur de valeur pour l'ensemble de la chaîne de ces acteurs. Il faut savoir que la loi AGEC a apporté des précisions et a apporté cette question de la REP bâtiment, mais elle a aussi apporté beaucoup de précisions et des nouveautés en matière de traçabilité. Que ce soit dans le texte sur le diagnostic déchets, donc, qui a évolué, qu'on appelle maintenant diagnostic produits matériaux déchets, dont le maître d'ouvrage doit faire le recollement à la fin du chantier, et le maître d'ouvrage est responsable d'assurer la traçabilité entre la phase diagnostic et la phase recollement.
Pour que les choses soient claires, quelle différence faites-vous entre le diagnostic et la traçabilité? Est-ce que l'un inclut l'autre? Comment ça doit se comprendre?
Le diagnostic PMD, c'est... À un instant T,
PMD,
avant que produits, matériaux, déchets, c'est l'évolution qu'a apporté aussi la réglementation, c'est de se dire, ne pas se projeter tout de suite dans le déchet, il faut déjà parler de produits, matériaux, déchets, ouvrir les horizons possibles du réemploi, de la réutilisation jusqu'au recyclage et l'élimination s'il n'y a pas de filière de valorisation disponible. Donc, en fait, la différence entre diagnostic et traçabilité, le diagnostic, c'est projeter à un instant T, avant que le chantier démarre, le bâtiment sous forme de qu'est-ce que ça va générer en flux de produits, matériaux, si jamais en réemploi, et de déchets, si finalement on va recycler ou éliminer. Donc, à l'instant T, je dis, mon bâtiment, il va générer tant de béton, tant de fenêtres, tant de verre, tant de plastique, etc. La traçabilité, c'est... Un, s'assurer que le langage commun, c'est-à-dire le langage sur lequel on s'est tous mis d'accord en amont pour qualifier et quantifier les choses, eh ben, ce langage, il va continuer à être transféré d'un acteur à un autre pour qu'on parle tous de la même chose et qu'on puisse assurer la meilleure destinée à ces déchets-là, et notamment pour qu'ils soient valorisés au mieux. À la fin du chantier, il y a une phase importante qui est le recollement. Le recollement, c'est faire correspondre le diagnostic à ce qui a été réellement réalisé à la fin du chantier et de se dire, ça, on a atteint les objectifs, là, on n'a pas atteint les objectifs. Pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux dans le futur? Et c'est là que la traçabilité joue un rôle. La traçabilité, c'est cette capacité à être la garante de ce langage commun tout au long de la chaîne des acteurs.
Donc ça va au-delà d'un BSDI, on va dire, enfin d'un bordereau de suivi de déchets.
Oui, c'est quelque chose de très important de dissocier la notion de traçabilité du support de la traçabilité. Voilà. On a aujourd'hui, dans le cadre de Démoclès, mené des réflexions en parallèle avec les réflexions qui ont été menées sur la REP, sur quel modèle français demain pour la traçabilité des déchets du bâtiment. On en est arrivé à des conclusions qui regroupent les besoins et qui expriment les besoins de toutes les chaînes des acteurs, donc les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises de travaux, les gestionnaires de déchets, les industriels. Le souhait est d'avoir une traçabilité de bout en bout. Le souhait est d'avoir une traçabilité dématérialisée et une traçabilité qui s'incarne en un tiers garant, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la chose d'un acteur, cette traçabilité, elle est la chose commune de tous les acteurs, c'est une forme de garantie dont ont besoin les acteurs.
Justement, on a une question, parce que pendant qu'on parle, donc, les personnes qui nous regardent peuvent nous faire part de leurs remarques ou de leurs questions. que je fais tout de suite passer, donc qui effectue le diagnostic ou la traçabilité, en l'occurrence par rapport à ce que vous dites, puisqu'effectivement, il y a de multiples acteurs sur, dans la chaîne de valeur, justement, de ces déchets du BTP, du bâtiment, pardon.
Alors, le diagnostic doit être réalisé par un diagnostiqueur habilité à le faire, qui devrait, donc, selon le nouveau texte, avoir un certain nombre de qualifications. C'est un métier qui est à la frontière entre la connaissance du bâtiment et la connaissance du déchet, initié, on va dire, depuis 2011 avec le texte sur le diagnostic déchet. Donc, c'est un métier en cours de construction, d'accord ? Aujourd'hui, il y a des diagnostiqueurs indépendants qui font très bien leur travail, qui connaissent bien les exutoires locaux, les acteurs locaux. Il y a des maîtres d'œuvre. C'est un peu ça l'évolution qu'a apporté la loi AGEC. C'est qu'avant, il y avait une forme d'indépendance entre le maître d'œuvre de l'opération de démolition et le diagnostiqueur. Aujourd'hui, c'est un métier qui s'ouvre aussi à la maîtrise d'œuvre qui accompagne le maître d'ouvrage dans son opération, ce qui apporte aussi certains avantages parce que c'est lui qui va suivre toute l'opération et du coup, il va pouvoir, on va dire, veiller à l'application des recommandations qu'il a données dans son diagnostic.
Alors effectivement, quand on vous écoute, on voit à quel point il y a du monde, quelque part, effectivement, qui est impliqué. Ça me donne la possibilité de passer la parole à Madame Weber. Donc, vous êtes de Veolia, donc opérateur de traitement de déchets. Je rappelle, vous êtes plus spécifiquement en charge du recyclage et de la valorisation. Alors, comment est-ce que vous, de votre point de vue, vous voyez effectivement la mise en place de cette REP ? Quelles sont les problématiques que c'est susceptible de poser ?
Alors, effectivement, ce qu'il faut repréciser aussi par rapport à cette loi AGEC, dont a parlé Stéphanie, c'est qu'elle donne effectivement la gratuité de l'apport à partir du moment où le déchet est trié, quand même, et qu'il est tracé. Et donc, il y a quand même une notion, effectivement, à respecter, que plus on trie, plus on va aller vers de la valorisation, vers du recyclage efficace. Et puis en même temps, il faut permettre aussi à tous ces déchets d'être soutenus pour ne pas les retrouver dans les décharges sauvages et tous les endroits où on ne veut pas les avoir. À partir de là, nous, on a réfléchi avec l'ensemble de nos confrères dans les fédérations où nous sommes représentés et les fédérations de démolisseurs également. Et on s'est dit, il faut qu'on arrive à travailler au mieux dans un contexte où finalement les metteurs en marché dans une REP sont donneurs d'ordre de la gestion des déchets et du financement de ces déchets. Donc ça change la manière dont on travaille habituellement avec nos partenaires commerciaux. Ce qu'il y a, c'est qu'on a deux grandes typologies en fait de chantiers. Il y a les chantiers, les gros chantiers généralement, où effectivement on va procéder à des enlèvements sur chantier. On va avoir eu un contrat avec des entreprises de travaux qui travaillent sur ces gros chantiers et on va procéder vraiment à une prestation sur chantier. Et puis, vous avez tout un réseau avec un maillage qu'il va falloir développer de points d'apport qui sont soit des déchetteries publiques, soit des déchetteries professionnelles, soit même une reprise en distribution. On va travailler sur du monoflux, de l'apport de monoflux ou de l'apport de déchets en mélange. Et là, franchement, on préconise pour ces deux types de chantier ou deux types de prestations, des organisations différentes de l'exercice de cette REP. Sur les chantiers d'envergure avec enlèvement sur chantier, on a les entreprises de travaux et les gestionnaires de déchets ont vraiment appris à travailler ensemble avec des exigences de souplesse, de réactivité sur ces chantiers. Et on préconise vraiment là que des standards de qualité, des standards de tri soient soutenus auprès des entreprises de travaux, mais avec une relation qui reste en ce qu'on appelle business to business dans notre jargon, mais qui reste en direct entre l'entreprise de travaux et le gestionnaire de déchets. C'est-à-dire qu'il faut que ces standards et l'incitation financière qui va être accolée à ces standards, je trie la moquette, je trie le plâtre, je trie, ça va être soutenu plus que si finalement, j'ai des contraintes de chantier qui ne me permettent pas d'effectuer un tri complet, eh bien, il faut que ces standards qui incitent à des pratiques vertueuses et qui incitent effectivement à des objectifs environnementaux qui seront discutés dans la plateforme, l'entité multi-acteurs dont vient de parler RIM, puissent être soutenus aux entreprises de travaux qui nous passeront un contrat, comme elles ont l'habitude de le faire, avec tout ce que regroupent nos contrats, qui peut être beaucoup plus large. Sur les points d'apport diffus, il y a une nécessité d'avoir un maillage, comme on a parlé Rim et Stéphanie. Il faut que ce maillage puisse permettre aux artisans qui viennent, aux entreprises, même aux petites entreprises qui viennent apporter leurs déchets, d'être dans des conditions de travail où elles ont une emprise locale. On ne peut pas leur dire, on va aller à 50 km, puis là, ce sera gratuit. Alors là, effectivement, il y a nécessité probablement de développer un maillage professionnel un peu plus fourni qu'il y a à l'heure actuelle. Les déchetteries publiques, telles qu'elles sont organisées, les 3800 déchetteries publiques actuelles, vont avoir du mal, si vous voulez, à effectuer tout le tri qui est nécessaire pour certaines d'entre elles. Hein, ouais, ça va être plus compliqué. Elles vont avoir des problématiques de place, elles vont avoir des problématiques d'orientation aussi, parce qu'il faut quand même être capable de recevoir l'artisan, de l'orienter.
Et puis ça rajoute un interlocuteur en plus, puisque
ça
c'est là pour le coup, c'est la collectivité.
Interlocuteurs, hein, oui, ça rajoute plusieurs interlocuteurs, parce qu'on peut imaginer qu'il peut y avoir plusieurs interlocuteurs éco-organisés, hein, peut-être pas qu'un, dans ce secteur qui est, comme on l'a vu, très large, très complexe. Donc effectivement, là, on propose de travailler sur un mode plus opérationnel avec ces éco-organismes où nous, pour créer des installations, bah, on peut les créer à partir du moment où on a des contrats avec des volumes. Donc, on sera capable, je veux dire, de travailler sur des appels d'offres et des prestations d'appels d'offres avec ces structures éco-organisées pour créer de nouveaux points d'apport, s'il le faut, dans des territoires où effectivement les points d'apport sont déjà bien répertoriés. Il faut que l'ancrage local puisse se faire des entreprises sur des territoires. Et puis après, bah, évidemment, il y a des questions d'enlèvement et puis d'orientation vers des installations qui vont être capables soit de trier quand ces déchets sont en mélange et d'en ressortir vraiment des taux de recyclage, des taux de valorisation optimum. Et là, probablement, sur ces déchets, ces 10 millions de tonnes dont on parle, hein, là, qui sont moins triés, moins... à l'heure actuelle, on ne parle pas des gros inertes, on ne parle pas des déchets d'amiante, qui d'ailleurs sont bien gérés dans une structure qu'il faut laisser en place.
Ah, justement, hein. C'était l'une des questions qui nous était adressée.
Les déchets d'amiante, c'est extrêmement sensible. Il y a des structures, à l'heure actuelle, et des liens commerciaux qui fonctionnent bien, et il faudrait les laisser hors REP. Il faudrait les laisser dans une mécanique de travail telle qu'on a là. Les déchets inertes, de la même façon, les grosses plateformes d'inertes, elles fonctionnent très bien. À les bouleverser toute l'organisation à l'heure actuelle, je ne suis pas sûre que ce soit un service à rendre aux interlocuteurs. Par contre, il y a ces 10 millions de tonnes, là, dont il faut s'occuper. Hein. Il faut créer des installations de tri. Il faut développer des filières de recyclage. Et ça, effectivement, des prestations éco-organisées avec des appels d'offres, avec des contrats, nous permettent de travailler sur des volumes, sur des engagements d'investissement. Et on n'est pas contre. Voilà.
Alors, en plus de la question de l'amiante qui nous était posée, d'ailleurs, je crois que Stéphanie Coulon, vous vouliez réagir par rapport à ça,
parce que... Oui, simplement dire sur les déchets d'amiante qu'aujourd'hui, on ne sait pas si ces déchets-là vont être inclus ou pas dans la REP. Il y a une question qui peut se poser, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de metteurs sur le marché de l'amiante.
On est d'accord.
Donc la vraie question, c'est si les déchets d'amiante sont dans la REP...
Comment on les finance?
Ça, c'est une question, sachant que ça coûte très cher, et que les volumes traités par an sont quand même importants. Néanmoins, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour certaines typologies de déchets d'amiante, par exemple l'amiante issue de chantiers de particuliers, l'amiante ciment issue de ces chantiers, qui représente, voilà, on diminue un peu le tonnage, donc peut-être qu'en termes économiques, ça pourrait être inclus. Il faut se poser la question, est-ce que ça ne serait pas intéressant quand même de les prendre en compte, d'une manière ou d'une autre?
D'accord. Une autre question qui nous est posée aussi sur différents types de déchets, ce sont les fenêtres. Le recyclage des fenêtres sera-t-il pris en compte? Et si oui, comment? Alors les fenêtres, bon, c'est du verre, donc ça c'est déjà, il y a même un Green Deal, un engagement pour la
tout à fait.
Voilà, qui existe.
Ouais.
Ça pose des vraies problématiques en matière de qualité, parce que derrière, pour réinjecter le verre et en refaire du nouveau à partir d'un ancien, c'est un vrai coût par rapport à un soin tout particulier à apporter au tri, si je ne m'abuse.
Oui, tout à fait.
Les huisseries, à partir du moment où elles vont être jetées dans des bennes en mélange, elles seront D'abord, le verre risque d'être brisé et beaucoup plus difficilement recyclable. Donc oui, il y a probablement un tri à effectuer de ces huisseries pour être capable, après, de les prendre en charge. Les huisseries, il y a aussi du PVC autour. Dans les huisseries, il n'y a pas que du bois. Il y a tous les matériaux qui peuvent être utilisés dans ces huisseries. Donc on a du PVC qui est aussi qui peut présenter des difficultés. S'il est pris dans des installations de combustion, ça va pas marcher. Donc ouais, il y a des difficultés qu'il va falloir prendre en compte, et la mise, le tri de ces déchets est probablement important.
Stéphanie Coulon, juste très rapidement avant qu'on passe la parole à Olivier.
Oui, simplement sur les fenêtres, dire que aujourd'hui les taux de recyclage sont assez faibles, que ça soit sur les huisseries que sur le verre. La problématique majeure, c'est la collecte, et l'idée, c'est d'arriver à massifier la collecte des fenêtres pour arriver à monter une filière qui soit économiquement rentable et donc générer du volume. Donc en ça, aujourd'hui, on n'a pas encore la précision. Est-ce que les fenêtres seront dans la REP? Mais la réponse que je ferai, c'est fortement probable, parce que c'est une filière qui tous les process et les techniques de recyclage sont en place, mais il faut un petit coup de pouce économique aussi pour inciter au tri et massifier les volumes collectés.
Alors Olivier Ponty, pour boucler la boucle, si je ne m'amuse, dans une question, un débat, une table ronde s'agissant d'économie circulaire, vous êtes en bout de chaîne, effectivement, le recycleur. Alors comment est-ce que, quand on est finalement celui qui va recevoir les matières à recycler, comment est-ce qu'on s'empare de toute cette problématique de la mise en place de la REP ?
Alors, ce que j'entends depuis tout à l'heure, et ce sur quoi je voudrais appuyer, c'est déjà, c'est quelque chose qui avance, qui est un énorme progrès, qui va être un énorme progrès, et donc une montée en performance pour l'ensemble du métier. Et chez les recycleurs, il y aura aussi cette montée en performance, puisque on va être obligé continuer à travailler, à réfléchir sur l'évolution des filières, l'évolution du tri, toutes ces évolutions. Il y a plusieurs points qui ont été abordés depuis tout à l'heure. Effectivement, il y a le côté financier, où les entreprises de bâtiments se posent la question de c'est gratuit, mais c'est gratuit à quel niveau ?
C'est jamais gratuit.
C'est
il y a toujours
gratuit.
Quelqu'un pour payer,
voilà.
De toute façon.
On veut dire, là, il y a un aspect gratuit, mais il va être à quel niveau ? Dans quel type de relation ? Et effectivement, nous, on pense que, comme a dit Françoise tout à l'heure, l'important, c'est que de ne pas casser ce qui existe déjà et qui est performant. Le métier du bâtiment est quelque chose de complexe. Le déchet, c'est quand même en bout de chaîne. Le bâtiment, c'est construire, mais il y a beaucoup de déchets. Ils deviennent de plus en plus importants en termes d'image et de traçabilité et de recyclabilité. Mais il ne faut pas casser les relations qui existent déjà. Il faut qu'elles s'améliorent et qu'elles évoluent. Donc, c'est-à-dire, effectivement, la relation entre l'entreprise de bâtiment et, je pense, les recycleurs, collecteurs, doit perdurer. Et c'est derrière, grâce à cette REP, que les recycleurs doivent continuer à travailler et à faire évoluer leur métier, en travaillant sur les filières. Après, pour tout ça, il y a justement le simplifier et le faire évoluer au mieux. La traçabilité va aider, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas s'il y aura un ou plusieurs éco-organismes qui vont gérer ces déchets. Dans tous les cas, il faut que cette traçabilité soit uniforme, que s'il y a plusieurs éco-organismes, on ne se retrouve pas avec plusieurs traçabilités. Donc je pense qu'il est très important, pour simplifier pour tout le monde, que cette traçabilité soit la même pour tout le monde.
Vous disiez, pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura un ou plusieurs éco-organismes. La mise en place de la REP, officiellement, c'est début 2022, c'est quasiment demain.
Oui. Alors, c'est justement ça qui est très intéressant, c'est que on ne sait pas. C'est demain, c'est une révolution en plus. Il faut bien avoir conscience que ça va être une révolution pour tous les acteurs, une révolution positive, mais quand même une révolution dans le mode de fonctionnement. Et pour autant, il ne reste qu'un an devant nous, alors que les éco-organismes ne sont pas encore désignés, que même le texte final sur comment ils vont être désignés et comment ils vont s'organiser n'existe pas. Donc c'est absolument étonnant, parce que on va avoir devant nous une année 2021 très... très vivante, si je le prends d'un côté positif, d'accord ?
Sachant qu'en 2020, on s'est pas ennuyé non plus.
Mais on ne s'est pas ennuyé, mais pour d'autres raisons. Donc voilà. Donc, effectivement, les éco-organismes, on ne sait pas s'il y en aura un ou plusieurs. Ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, effectivement, la traçabilité, une traçabilité efficace et simple, sera un progrès pour tous. D'accord. Et après, bah, effectivement, il y a le mode d'évolution des relations qui doit être préservé. Et puis nous, recycleurs, on doit réfléchir et continuer à travailler sur le digital, par exemple, qui peut se retrouver dans la traçabilité, mais aussi à détecter les erreurs de tri. Le digital qui doit, de toute façon, rentrer encore plus dans nos métiers en faisant évoluer les contenants d'ébène et puis nos méthodes de travail sur le site, aller vers les filières. Donc tout ça, c'est très intéressant, un petit peu anxiogène car le temps va être court, très chargé, mais il y a plein de progrès à faire et c'est ça sur lequel je voudrais insister, c'est que notre métier est face à, vraiment, j'insiste, une révolution, mais très positive, et il faut qu'on y aille tous ensemble.
Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de consultations de décrets qui sont en cours.
Oui.
Frédéric, j'imagine, y participe activement. Comment est-ce que vous les percevez? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Parce que tout à l'heure, vous parliez effectivement du fait qu'il y allait avoir un ou plusieurs éco-organismes. Au final, pour vous, c'est juste, et vous me corrigerez si je me trompe, un changement d'interlocuteur. Avant, vous travailliez directement avec les entreprises du bâtiment pour récupérer leurs déchets. Désormais, votre interlocuteur sera l'éco-organisme.
Alors, ce n'est pas du tout juste ça, au contraire.
D'accord.
Parce que d'un côté, vous avez une relation d'un professionnel du déchet avec un professionnel du bâtiment qui ont appris à travailler ensemble depuis des années. De l'autre côté, vous allez avoir un éco-organisme qui est un axe de progrès globalement, mais qui est une entité plus avec des démarches administratives, financières, et qui va, si on prend le côté opérationnel et donc pas forcément le plus efficace, qui va être un nouvel intermédiaire entre l'entreprise de bâtiment et nous-mêmes. Et ça, on pense que ça ne sera pas forcément une source de progrès. Il faut que chacun soit à sa place pour plus d'efficacité globale. D'accord.
Alors, s'agissant des consultations sur lesquelles je reviens, voilà, il y a effectivement les tri 5 flux, 5 ou 6.
5, 6, 7.
7,
voilà.
7.
Alors, vous pouvez peut-être d'ailleurs faire tirer ça au clair parce que je me suis renseigné, c'est pas simple.
C'est pas simple, bah parce que tout simplement, est-ce qu'on y met le plâtre, est-ce qu'on y met pas le plâtre? Enfin bon, effectivement, il y a des évolutions. Ce qui est sûr, c'est que il va falloir trier au moins 6 et de manière claire et déterminée. C'est sûr que la benne, ce qu'on appelait la benne de DIB sur le chantier où on mélange tout et après on voit ce qui se passe sur le centre de massification qui lui va trier. Il va falloir commencer un peu à l'oublier et penser à développer le tri développer de plus en plus le tri sur chantier. Donc, pour revenir à votre question initiale sur les textes, effectivement, le ministère a fait en sorte qu'on s'ennuie pas l'été passé, puisque nous avons eu des centaines de textes à analyser dans des délais très courts, et il a fallu réagir sur tous. Alors, soit sur effectivement comment allaient être faits les éco-organismes, comment ils allaient être pilotés, c'est-à-dire parce que les éco-organismes donc, vont être créés l'année prochaine avec l'émetteur, par l'émetteur sur marché. Mais bon, bah, il faut les aider aussi par nos connaissances. Donc comment on va avoir des relations avec eux, par des organismes généraux, en participant avec eux. Et puis aussi, il y a eu tout ce qui a été connexe, comme on a dit, le diagnostic PMD, qui est une évolution importante, alors surtout pour le monde de la démolition, puisque le diagnostic PMD s'applique à la démolition et pas au chantier neuf. Mais ça va être là aussi une évolution très importante parce que, comme pour l'amiante, on va tracer beaucoup plus les déchets, mais avant de réfléchir aux déchets, comme a dit Rim, on va penser au réemploi. Et donc là aussi, c'est une approche différente du monde de la démolition. Avant de penser déchets et démolition, on va penser comment on déconstruit pour réemployer et réutiliser sur place ou ailleurs des matériaux qui peuvent encore avoir une vie.
Rimem Kiba, vous vouliez réagir?
Je voulais réagir sur la question du calendrier de mise en œuvre de la REP et de la question de la traçabilité. Donc, le calendrier 2022, c'est un gros challenge, mais le challenge est encore plus fort pour la traçabilité parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, la traçabilité, c'est aussi un langage commun et des process communs. Et donc, ce qui est important, c'est que ces langages communs et process communs soient définis en parallèle, voire légèrement en amont, pour que demain, le ou les futurs éco-organismes les intègrent comme étant le standard avec lequel ils doivent interagir. Si on attend qu'on met la traçabilité a posteriori, le risque, c'est qu'on se retrouve avec des éco-organismes qui vont partir chacun avec son langage, chacun avec ses process, et du coup, on perd tout l'avantage qu'on essaye d'avoir avec une traçabilité, un langage commun, comme le disait Olivier. C'est pour cette raison qu'à l'issue des travaux qu'on a menés en 2019 dans le cadre de la plateforme Damoclès sur quel modèle français de traçabilité demain pour les déchets du bâtiment. Un ensemble d'entreprises aujourd'hui est porteur d'une réflexion et d'un projet en matière de traçabilité. Un ensemble d'entreprises pour financer, préfinancer, on va dire, cette réflexion, en entraînant derrière tout un collectif d'acteurs, d'organisations professionnelles et de fédérations, dont certains sont représentés dans ce tour de table, pour initier, on va dire, en parallèle, cette réflexion sur ce langage commun et cette traçabilité. Et d'ailleurs, un projet qui est en lien avec le plan de relance donc de l'État. Voilà.
Olivier Bonti.
Oui, de la même manière que la traçabilité, il faut la prendre très vite. Nous, recycleurs, on voudrait appuyer aussi sur la gestion des nouvelles quantités qui vont apparaître. Parce que le recyclage, c'est merveilleux, mais si on va jusqu'au bout de la réflexion. Aujourd'hui, vous avez des filières qui ont été mises en place il y a quelques années, comme Écomobilier, Valdélia, je prends cet exemple. Pour les meubles, il y a 10 ans, un meuble, on le prenait, et parce qu'il faut le déconstruire, enlever la partie métallique, la partie bois, la partie stratifiée, la partie PVC, éventuellement de revêtement qui avait, il finissait en centre d'enfouissement ou en incinération. Bon. Aujourd'hui, grâce à ces REP, ils sont déconstruits et on a fait ressortir des quantités très importantes de bois. C'est merveilleux, sauf qu'il y en a tellement qui sont sortis, que ça n'avait pas été anticipé par les pouvoirs publics et les industriels. C'est pour ça que je parle aussi d'une nécessité de main dans la main beaucoup plus accrue. Et ben, ce bois, on ne sait plus trop quoi en faire. Parce que les panotiers, eux...
Il n'y a pas de débouché, en fait.
Alors, il y a, mais je veux dire, les panotiers sont ce qu'ils sont. C'est pas parce que nous, on crée plus de bois qu'il y a plus de meubles en bois qui sont vendus. Après, il y a aussi l'incinération, mais... aujourd'hui, l'incinération, elle est ce qu'elle est pour créer de la chaleur, sachant qu'on va plutôt sur du réchauffement que sur du refroidissement. Et on se retrouve avant, lorsqu'on avait des filières locales ou de proximité, à affréter des bateaux pour envoyer du bois en Suède, parce que là, en plus, la réglementation est plus en avance. Ils ont réfléchi encore mieux à l'autosuffisance. Et donc, ils savent intégrer ce bois dans leurs unités de création de chaleur, alors que nous, en France, notre réglementation bloque un peu ce développement.
– Vous parlez des CSR ?
Oui. Non, pas que du CSR, je parle vraiment des chaufferies où il peut y avoir de la biomasse, du bois. Et voilà, et c'est une erreur qu'il ne faudrait surtout pas faire, parce que, comme on dit, on parle de 46 millions de tonnes, donc c'est sûr que si on est tous très performants, on va créer plein de filières, enfin plein de nouvelles quantités, mais il faut absolument qu'on sache quoi en faire de manière vertueuse et pas se dire on a trié ça, c'est très bien, mais maintenant on en fait quoi ?
Oui, si je simplifie, ça veut dire qu'à la fin ça va se retrouver sur vos centres de tri
et
les occuper.
Voilà, et nous aurons les DREAL qui viendront nous voir en nous disant vous dépassez vos quantités de stockage, ce n'est pas bien. Et c'est pas du tout ce que l'on envisage, et je pense qu'il y a vraiment une démarche proactive à avoir dès maintenant, et que l'avenir, il ne faut pas réfléchir que à la REP, il faut réfléchir à la REP et après. Et là, il y a la réincorporation et les industriels doivent être nous. Et donc, le cercle est vertueux. On retombe sur les metteurs sur marché, sur les industriels qui fabriquent. Travaillons avec eux pour voir comment développer encore plus la réincorporation dans leurs matières premières.
Françoise Weber.
Oui, pour vraiment appuyer aussi sur ce point-là, je pense que l'entité multi-acteurs dont Damoclès, dont parlait RIM, est importante parce que cette traçabilité va nous permettre d'objectiver les performances. C'est-à-dire qu'on soit capable de mesurer d'abord les performances, le point de départ, et puis d'objectiver là où on veut aller, en prenant en compte effectivement le développement de filières de recyclage, le développement d'installations de tri, parce que ce qu'on fait sur des plateformes avec du tri à l'appel, etc., peut être quand même amélioré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez avoir des financements, où on va pouvoir objectiver là où on veut aller, avec des moyens mis en œuvre derrière pour atteindre ces objectifs, une évaluation de ces moyens en tout cas, eh bien, nous, opérateurs, on va être capable de mettre en œuvre les installations, en tout cas de travailler sur la mise en œuvre des investissements et des installations qui sont nécessaires pour l'atteinte de ces objectifs. Donc c'est ça vraiment la vertu de la REP, c'est vraiment d'arriver quelque part à objectiver d'où on part, là où on veut aller et les moyens qu'il faut mettre en place. Et là où c'est vraiment important qu'on travaille ensemble, c'est parce que nous sommes tous liés. là-dedans. Et pour faire un système soutenable, il faut qu'on discute sur l'ampleur des coûts nécessaires pour aller à un endroit, sur ce qui existe à l'heure actuelle en termes de, justement, de débouchés, en termes d'installation de tri, et ce qu'il faut mettre en œuvre pour y aller, et le timing qui va avec les coûts associés. Et c'est ce qu'on a toujours eu un petit peu de mal à faire jusqu'à maintenant dans les REP. C'est là où souvent le bât blesse, je dois dire, parce que c'est quand même compliqué, hein, justement d'avoir cette vision, de la partager, de la mettre en œuvre ensemble avec des intérêts qui parfois sont pas complètement alignés.
Est-ce que vous voyez des filières REP sur desquelles vous pouvez tirer des enseignements de choses à faire ou au contraire de choses à ne pas faire?
Alors, je ne sais pas si je veux tirer des enseignements là, mais oui, on a maintenant du recul, c'est-à-dire qu'on voit bien dans des filières aussi anciennes que les D3E, où on a vraiment travaillé en phase avec les éco-organismes. On a vu les obstacles qu'on a eus, on voit qu'effectivement, il y a une multiplicité d'acteurs sur le territoire français et qu'il y a vraiment besoin de concertation. Il y a besoin de visibilité et qu'il faut trouver des endroits où on a cette visibilité. Voilà. C'est vraiment la clé du succès et d'arriver après à avoir des lignes stratégiques où chacun s'y retrouve.
Stéphanie Coulon.
Oui, je voulais compléter sur le fait qu'il faut s'intéresser au-delà de la REP, mais en fait, ça va avec la REP. Il y a un acteur dont on n'a pas parlé, un acteur de la construction, qui est le maître d'ouvrage. Et le maître d'ouvrage, finalement, aujourd'hui, le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre qui vont rédiger les cahiers de prescription des travaux. Et aujourd'hui, l'image du produit recyclé, du matériau recyclé, elle n'est pas forcément qualitative. On a un espèce d'a priori en se disant le produit recyclé, le matériau recyclé, il va être de moins bonne qualité que le matériau vierge, le matériau neuf. Or, il y a des normes aujourd'hui, des normes produits qui sont strictes et qui définissent un niveau de qualité à atteindre, que ça soit pour le produit neuf, que ça soit pour le produit recyclé. Donc, il va y avoir aussi un effort de sensibilisation et de pédagogie à faire auprès de nos prescripteurs pour démystifier et tirer la demande en matériaux et en produits recyclés pour, du coup, tirer toute la chaîne derrière, finalement, filière de recyclage, industriel, opérateur déchets, et puis les pratiques de nos entreprises de travaux qui vont utiliser ces matériaux.
Rimem Thiba, les maîtres d'ouvrage, ils sont conscients, effectivement, de leur responsabilité dans toute cette problématique?
On va dire qu'aujourd'hui, un peu plus qu'hier, et chaque jour, un tout petit peu plus.
Donc, ça va dans le bon sens, alors?
Ça va dans le bon sens. Disons qu'il y a quelques années, on avait beaucoup de difficultés à parler aux maîtres d'ouvrage de leurs déchets. Effectivement, aujourd'hui, le maître d'ouvrage est beaucoup plus enthousiaste à l'idée de construire un bâtiment qu'à l'idée de s'occuper de la démolition ou de la réhabilitation lourde de son bâtiment du jour. Et du coup, oui, effectivement, il y a une notion qui est la notion de producteur déchets, donc un statut qui est dans le code de l'environnement, que le maître d'ouvrage a, lorsqu'il est en construction, en démolition et réhabilitation, qu'il n'a pas lorsqu'il est en construction neuve. Et pour lui, la prise de conscience de ses responsabilités en matière de prévention et gestion des déchets démarre par là. Donc c'est pour ça qu'effectivement, au cœur de la plateforme Démoclès, la maîtrise d'ouvrage, elle est notre principale préoccupation. On développe un ensemble d'outils et de démarches à leur intention. Et d'ailleurs, actuellement, on a un appel à projet qui s'appelle 50 maîtres d'ouvrage exemplaires, qui a vocation, on va dire, à amplifier l'effet qu'on essaie de donner via Démoclès sur la prise en compte de l'économie circulaire dans la rédaction de ces fameux cahiers des charges des maîtres d'ouvrage. Alors, on ne parle pas exactement de la même chose avec Stéphanie. Elle parlait plutôt de la prescription de matériaux contenant de la matière recyclée. Moi, je parle plutôt de comment le maître d'ouvrage intègre dans ses cahiers de charges de démol réhab des exigences et des performances à l'intention du reste de la chaîne des acteurs sur ces opérations. L'idée, en fait, dans cet appel à projet, c'est qu'on sorte un peu de notre cercle Démoclès où on a une quarantaine de maîtres d'ouvrage avec lesquels on travaille depuis le début pour créer, on va dire, ces références, pas des référentiels, mais des guides méthodologiques à leur intention, et d'industrialiser un peu la demande des maîtres d'ouvrage en matière d'économie circulaire.
Voilà. Olivier Ponty, et ce sera le mot de la fin parce qu'on est au bout du temps qui nous est imparti.
Quelle responsabilité.
N'est-ce pas ?
Donc, écoutez, je voulais dire quelque chose d'assez positif. Ne pas oublier donc, ce côté révolution parce que, par exemple, je voulais citer Hervé Grimaud d'Écosystème. Il dit, quand je lis des diagnostics déchets, donc les PMD maintenant, j'ai souvent l'impression qu'on s'éclaire encore à la bougie et qu'on se chauffe au bois. Parce que sur les bilans des 3E, on n'en trouve pas encore. Bon, donc ça, c'est déjà une chose. Un autre enseignement, c'est ce que je disais sur les bois, justement. Je pense qu'on peut considérer que l'évolution des filières est absolument essentielle et qu'il faut réfléchir à comment travailler sur tout ça et développer de nouvelles filières de recyclage. Et je suis très optimiste sur les maîtres d'ouvrage, puisqu'il y a le diagnostic PMD qui est une obligation, mais beaucoup de maîtres d'ouvrage aujourd'hui sont de plus en plus vertueux et font des diagnostics ressources où ils réfléchissent sur le réemploi. Et ça leur coûte. Pour de l'image, mais aussi pour réfléchir au réemploi. Et chez Fédérec, on est très optimiste sur cette évolution.
Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Effectivement, optimiste, on va dans le bon sens. Merci à vous tous et toutes donc, d'avoir participé à cette table ronde. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Donc, une table ronde à revoir en replay sur Polutech Online. Merci à vous.
Polutech Online, le rendez-vous incontournable des acteurs de l'environnement et de l'énergie. Vivez l'expérience Polutech de façon 100% digitale.